Super statue.
L'actualité tout autour de la Méditerranée.
1538, Méditerranée. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille. Une émission qui vous invite encore et toujours à regarder du côté de la mer et à traverser les frontières pour questionner les sociétés au Maghreb, au Moyen-Orient et en Europe du Sud. Ce mois-ci, traversons la mer direction le Liban, où depuis le 17 octobre 2019, les rues bruissent des cris des manifestants. Alors c'est l'un des slogans les plus repris par la foule qu'on vient d'entendre, une sorte d'hymne de la révolution qui a déjà ses reprises sur la toile internet, c'est assez rigolo de chercher. Et ce slogan, il évoque Gebran Bassil, l'ancien ministre de l'énergie et de l'eau, le gendre du président actuel libanais, en des termes plutôt fleuris, il faut bien le dire, comme un symbole du rejet du corps politique, des dirigeants aussi à la tête du pays depuis des années, voire des générations. Alors pour évoquer un petit peu tout ce contexte libanais, à mes côtés dans le studio, pour partager son regard d'artiste sur ce qui se passe. Léna Merej, bonjour.
Bonjour Colline, bonjour tout le monde, bonjour la Méditerranée.
Alors avec vous, on va parler de la situation dans le pays, mais aussi de la manière dont ça influence votre travail, de la manière dont vous avez ressenti un petit peu ces choses-là. On retrouvera aussi le photographe David Durie dans une deuxième partie, parce que au-delà de la rue, des manifestations, des slogans, on a l'impression qu'il y a une sorte de bouillonnement artistique aussi en ce moment au Liban. Et tout ça, c'est lié, en fait, pour revenir un petit peu sur le contexte de tout ce qui se passe depuis le mois d'octobre. Donc, le gouvernement libanais avait annoncé une série de mesures, et notamment des nouvelles taxes, alors que le pays est déjà dans une situation économique assez difficile, et la population également. Et donc, spontanément, en fait, des gens sont sortis dans la rue. Et ils se sont emparés un petit peu des grandes places, pas seulement à Beyrouth, d'ailleurs un peu dans tout le pays. Vous étiez là-bas d'ailleurs à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ça a commencé ?
La première chose, c'est qu'il faut descendre, qu'il faut voir, qu'il faut participer, qu'il faut exprimer aussi la rage, la colère. Et du coup, oui, le ressenti, il n'y avait pas vraiment de la place pour sentir. C'était juste de l'action. On est descendu, on a participé, pris des photos. Hein. Et après, tout ça, c'était un déroulement assez rapide. Dans des situations comme ça, c'est la révolution. C'est des hauts, très hauts, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de force. Et puis des bas aussi très, très, très bas, avec de désespoir. La situation n'est pas à envier, c'est clair.
Et quand vous dites la colère, c'était de la colère par rapport à quoi ?
Alors, la colère par rapport à tout au Liban, par rapport à dans tous les détails, que ce soit les poubelles, que ce soit les services que l'État nous offre, que ce soit les privatisations qu'ils font, que ce soit les taxes qu'est-ce qu'ils nous offrent ? Qu'est-ce qu'ils nous offrent ? Ils nous offrent rien, mais franchement rien. Et après, toutes ces histoires de corruption, ça, c'était vraiment le truc qui a fait sortir toute cette rage.
Et une rage aussi qui, on l'a senti par rapport peut-être à d'autres mouvements aussi qui étaient communes, qui a touché un peu tous les Libanais. On sentait quand même, en tout cas à travers les images, moi j'étais pas sur place, mais qu'il y avait pour une fois une sorte d'union dans la rue.
Ça c'est très clair, la solidarité parmi les révolutionnaires, c'était très clair que ça soit d'utiliser le même slogan très subversif d'insulter dans la rue, qui est une chose qui était criminalisée avant et qui est même criminalisée jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quand on t'appelle à ce bureau de censure qui est illégal pour t'arrêter. mais aussi à travers, par exemple, dès le second jour, au fait, il y a eu une brigade pour nettoyer les rues, il y a eu une autre brigade pour nourrir les gens dans la rue. Donc il y a eu pas mal de solidarité comme ça, et ça, on l'a connu déjà depuis 2006, même depuis pendant la guerre, quand je l'ai vécu, ben, les gens dans des situations pareilles, ils ne peuvent survivre qu'en étant solidaires.
Et alors, pardon.
Oui, j'espère que c'est notre leçon quelque part, c'est ce qu'on a appris.
Et ça, de quelle manière ça a influencé votre travail? Qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire, pour le coup, là, en tant qu'autrice, illustratrice
Quand j'étais sur place, quand j'étais à Beyrouth, je pensais c'est quoi le moyen que je sais le plus faire et comment je peux être le plus efficace. Et du coup, j'ai choisi ce que je fais dans mon travail, qui est la BD. Et j'ai essayé de raconter les actualités à travers la BD et utiliser ce médium qui à la fois donne un truc très général, très universel, mais aussi quelque chose de très personnel pour aussi donner un espace pour tous ces sentiments qui sont bouleversés. Du coup, je parlais de mes sentiments à moi, mais aussi de mon rapport avec ma mère, ma sœur, comment elle sentait, elle avait peur, ma sœur, de descendre. Du coup, c'était toujours une conversation entre moi et elle. Est-ce que tu vas aujourd'hui, peut-être je peux te donner un peu d'espoir comme ça. Donc, c'était aussi une conversation de ce qui se passait tous les jours.
Et maintenant que vous êtes revenu en France, de quelle manière vous avez envie de raconter? Est-ce que vous avez toujours envie de raconter? Comment ça se passe aussi quand on quitte, qu'on a vécu de telles émotions et puis qu'on se retrouve dans un autre contexte?
Il faut dire que quand j'étais à Marseille avant de partir à Beyrouth, j'étais là pour un an et demi et j'ai travaillé sur un livre que je voulais qu'il soit sur les Arabes de Marseille. Et j'ai eu du mal à raconter, j'ai eu beaucoup de mal à dire des mots, à utiliser des mots. Et du coup, après 2 ans de travail et de recherche, j'ai fait un livre sans mots. C'est une histoire, mais c'est l'histoire des peuples qui sont obligés de quitter à cause des situations dans leur pays et de changer de vie et de vivre ce déplacement. Et du coup, c'était sans mots. Et quand je suis arrivée à Beyrouth, et ça s'est arrivé, je me suis trouvée comme si c'est quelque chose s'est ouvert et je voulais juste parler et raconter et mettre tout dans un mot. Et du coup, j'ai utilisé le dialecte libanais, même sans censure, sans penser à comment je dois écrire, juste parler. Et je pense que, oui, quelque part, quand je suis revenue, je n'étais plus dans cette actualité. Et quelque part, le raconter, utiliser des mots, utiliser les slogans qu'ils ont été dits, il n'y a plus de place pour eux ici. Je pense que là, je reviens à ce que je sais. Et je pensais faire un abécédaire pour les enfants, que ce soit le focus, c'est apprendre l'apprentissage de l'arabe et de cadrer les lettres sur des concepts de la Révolution. Tout en essayant de le garder à un livre qui soit accessible pour les enfants. Du coup, pour les Libanais, c'est très clair les symboles que j'utilise. Mais du coup, je vais utiliser une explication plus pour approfondir un peu plus le rapport entre la lettre et le concept et l'image que je vais utiliser.
D'ailleurs, vous parlez de la langue, du rapport aux mots et de spontanément avoir voulu aussi utiliser le dialecte libanais. C'est quelque chose aussi qu'on a senti. Par exemple, il y a un journal qui est né de la Révolution qui est en libanais. Il y a des médias qui se sont lancés aussi et qui proposent des vidéos, des témoignages en libanais. Alors que le Liban était un pays où le français et l'anglais, par exemple, sont des langues très parlées. Et finalement, on a l'impression qu'il y a une envie de retourner à ça, d'un petit peu discuter entre vous et ensuite de se préoccuper peut-être de propager ça.
Oui, ça c'est clair. Ça, je l'ai vu à travers le collectif Samandal dans lequel je suis. Du coup, La soirée où on est descendu dans la manifestation la première fois, on était tous réunis et on disait comment peut-être on doit faire des livres plus en langue étrangère pour viser un public plus large et pour avoir un lectorat, parce que le lectorat arabe il n'est pas très encourageant. Et les jeunes du collectif étaient beaucoup avec cette idée et ils ne comprenaient pas pourquoi j'insistais. Comme moi, j'ai grandi pendant la guerre, aussi mon père il est arabiste, du coup l'arabe, et c'est quelque chose de très important pour moi, faire un livre en arabe, c'est quelque chose de... Je sens que je suis en train de faire quelque chose de très important. Et du coup, après la première fois qu'on est descendu, les jeunes là, ils disent non, il faut utiliser l'arabe, il faut encourager. Et je pense que oui, certainement, il y a un retour à tout ce qui est libanais. Mais je pense que aussi avec pas mal de conscience que aussi on n'est pas au fait les gens, les révolutionnaires, c'est pas les Libanais, c'est tous les gens qui vivent au Liban, c'est aussi les Palestiniens, c'est aussi les travailleurs étrangers, c'est les Syriens, c'est tous les gens qui subissent ce système pourri qui nous tue avec le poison, qui nous oppresse et nous qui abuse de nous.
Et comment vous allez rendre ça d'ailleurs? Enfin, est-ce que vous avez envie de rendre ça avec le collectif? Est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous donne envie de travailler là-dessus peut-être avec Samandal?
C'est-à-dire qu'avec le collectif, on travaille là depuis 11 ans et on a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'association et sortis. Donc aussi ça c'est une expérience... Je pense que c'est quelque chose qu'on a donné quelque part. On a fait pas mal de publications, mais on aimerait faire une publication sur la Révolution. Et ça, c'est en cours. On en parle. Mais c'est pas la publication elle-même n'est pas une priorité. Pour nous, la priorité maintenant, c'est que chacun puisse exprimer dans ce temps difficile, ce qu'il a à dire. Tout le collectif, ou presque, est en train de produire des choses par rapport à... manifester contre, ou objecter, ou faire des dessins pour les accrocher, ou contribuer ce qu'ils peuvent.
Alors pour terminer, peut-être vous m'avez dit quand on a discuté un petit peu que ces dernières semaines vous avez un peu fermé, vous avez moins suivi ce qui se passe là-bas parce qu'aussi ces derniers temps le mouvement a un peu changé de visage. Est-ce que vous êtes inquiète de comment ça pourrait évoluer ou...
Je suis inquiète comme tous les Libanais, je pense depuis le premier jour. Mais après, qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant? On n'a plus rien à perdre. On n'a que à gagner de projeter un nouveau gouvernement, une nouvelle vision de ce qu'on veut de notre pays. Moi, pour l'instant, j'aimerais trop travailler un livre sur l'histoire contemporaine du Liban. Cette histoire que je n'ai pas connue, que personne ne m'a racontée, que je dois chercher maintenant. Et j'aimerais bien le faire pour pouvoir partager avec tous ces enfants qui sont clueless. Qui n'ont rien à voir avec leur passé, et leur présent et leur pays. Merci.
Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Et on continue un petit peu dans le foisonnement artistique de cette révolution avec une chanson d'un rappeur libanais, Rafar Toufar, qui s'intitule « Interdit ».
مرحبا معلم. لك البيت بعت لي على الإيميل لأنه أنا بدي سجل أول يومين. أنت شو الأخبار مصوبك؟
يا قصر ضاوي والجرد عني يا حق أخرس ما نطق كلمي يا قصر ضاوي والجرد عني يا حق أخرس ما نطق كلمي يا دهر يا دولاب يا دوار يا دهر يا دولاب يا دوار يا غدر خليت الندل زلمي يا غدر خليت الندل زلمي ممنوع عجواز السفر طاج وخاتم كانت حال من زمان الحديث هلا عند رواح ما بفيد النواح
علي راح سماح ما حدا مرتاح الا سفحين باللانون مسلحين الله يعين نازلين على الشوارع بالعدل مطالبين منا طالعين مدميين طالبين بتعويضات قوى من الحكمين بلاد من العدل وين علنين بالمتاهه بين اثنين رجال الدين واللي فيهم حكمين واللي فينا شحدين سرعين نهبين يخلونا مديونين منكوبين جوعانين خلفنا لما دارس كنا منا مرعوبين حتى يصيروا نسخة عنا مكبوتين للي قاعد يحسب دين ولا دين مو حرام العقل وين العلم غالي واللي حرق حاله ما حدا عباله مختلفين ع حلال ع حرام هي روحه ناقصة عدام بدل ما تنهز عروش صنفوا انتحار وناموا عادي والصورة زي ما هي والريحة عنا أبي مختلفين عن نيابي من صغرنا عودونا على الدوام ستين في سبع نام حرموا الأحلام للتحرش للمجتمع المريض للعرصات كله هين جيوش مشلوش ربحانين جميلة الحرية وحبوس ما بتساع دوا سرطان الأكل سرطان من العريضة للنقورة البحر سرطان صمام الأمان أنت يا شعب رضيان يا دليل العلم أنه مزرعة لبنان يا فهيم يا عليم يا شعب لعبة زعيم يا متخبي بخياله هو عايش بالنعيم انت ميت كرماله على ضعف منك لقيم شد ظهرك برجاله أيها الشعب العظيم كل واحد همه حاله
Autre regard affûté sur le monde qui l'entoure, celui du photographe David Uri qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour David.
Bonjour.
Alors tu es journaliste, écrivain, éditeur et photographe.
Absolument.
Et tu as vécu pendant presque 20 ans au Liban.
Oui.
Et tu étais sur place quelques jours après le début de la révolution en octobre dernier, puis de nouveau en janvier, là, au tout début de cette année. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les prémices du mouvement ?
Dans les prémices du mouvement, moi je suis arrivé la première fois là en fin octobre, une semaine après le début. Moi c'est surtout le décalage entre octobre et janvier là, où l'ambiance à Beyrouth est radicalement différente en deux mois et demi. Mais enfin ça fait trois mois, bientôt quatre, je crois que la révolution a commencé et l'ambiance a radicalement changé à Beyrouth. C'était très sympa au début et c'est devenu beaucoup moins drôle, c'est-à-dire beaucoup plus dur et beaucoup plus tendu entre les manifestants et les forces de l'ordre surtout.
Et alors au tout début, tu as publié une série de photos sur les premiers moments quand tu y étais en octobre. Qu'est-ce que tu as voulu à travers la photographie rendre de ces instants justement qui étaient joyeux ? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait d'une révolution joyeuse.
Absolument, c'était joyeux. En fait, surtout moi, ce qui m'avait marqué sur les premières semaines, c'est la libération de la parole. C'est quelque chose qui était totalement nouveau à Beyrouth. Moi j'ai vécu très longtemps là-bas, je sais que le monde arabe c'est pas nécessairement l'endroit où il y a le plus de liberté d'expression. Mmh. Et d'un coup en fait les gens se sont complètement lâchés et c'est la première fois que je voyais ça. Pendant très très longtemps je me suis demandé où était passée ce qu'on appelle la majorité silencieuse au Liban, parce qu'il y a des choses complètement surréalistes dans la vie politique au Liban. Et puis, et d'un coup, en fait, les gens se sont vraiment lâchés. Ça s'est vraiment marqué sur la contestation vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères, qui est le gendre du président, Gebran Bassil. L'année dernière, il y a eu plusieurs affaires comme ça, de personnes qui avaient publié des critiques à l'égard de ce ministre sur Facebook ou autre, et le lendemain, il y avait des flics qui toquaient à la porte. Et là, d'un coup, ça a été un déferlement d'injures contre ce ministre, parce que tout le monde a osé prendre la parole, tout le monde, c'est-à-dire des gens issus de toutes les communautés. Ça s'est vraiment éclaté. Donc cette libération de la parole, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, et ça, je pense que ça a dû faire peur à l'establishment à Beyrouth.
D'ailleurs, en parlant de tout ce monde réuni et qui représente un peu tous les Libans, finalement, dans tes photos, tu aimes aussi raconter des histoires parallèles, et notamment dans l'une d'elles, tu reviens sur l'histoire du drapeau libanais et une rencontre que tu as faite à ce sujet. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, de questionner la présence de ce drapeau libanais dans les manifestations?
D'abord, le drapeau libanais, moi j'ai vu par exemple aussi les manifestations en 2005 quand Rafik Hariri a été assassiné. Très souvent, en général, les Libanais sortent d'abord le drapeau de leur parti politique. Quand il y a des manifestations comme ça, qui ont une ampleur nationale, le drapeau libanais est sorti et j'ai découvert en fait complètement par hasard que le drapeau libanais, il obéit à des règles de construction, c'est-à-dire que voilà, on a tous en tête ce drapeau avec le cèdre, parce qu'il est beau, tout simplement. Et puis, en triant des photos en novembre dernier, je me suis aperçu que sur toutes mes photos, en fait, il n'y a pas un drapeau qui ressemble à son voisin. Tout le monde a un drapeau différent. Et puis, au mois de janvier, là, j'ai rencontré à Beyrouth, un artiste qui s'appelle Ara Azad, qui est un peintre assez connu là-bas, et qui, en fait, moi je connaissais pas son combat depuis des années et des années, concernant le drapeau libanais, il réclame, il demande à ses compatriotes de respecter leur drapeau, ne serait-ce qu'en utilisant un drapeau qui suit le design édicté par l'article 5 de la Constitution libanaise. Pareil, je savais pas qu'il y avait un article spécifique pour le design du drapeau libanais. Et c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que l'identité nationale libanaise est très complexe, très compliquée. Il y a autant de Libans que de Libanais, et donc il y a quasiment autant de drapeaux libanais que de Libanais. Quoi. C'est assez étonnant. Est-ce qu'un jour les Libanais se mettront, ne serait-ce que d'accord que sur leur drapeau, sur la nature de leur drapeau, j'en ai aucune idée. Mais ça, ce serait vraiment intéressant à creuser.
Et au-delà de ça aussi, est-ce que toi, dans tes années passées au Liban avant cela, tu imaginais qu'un mouvement comme ça soit possible? Est-ce qu'il y avait, il y avait eu déjà en 2015 une réaction par rapport aux déchets qui s'accumulaient, qui n'étaient plus ramassés pour des problèmes de gestion, etc. Mais est-ce qu'un mouvement comme ça, en ayant vu ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, tout ça, bon, c'est vrai qu'on avait tendance à se dire depuis le Liban que les Libanais, ils se prêtaient pas à ce genre de mouvement, et là on est en plein dedans. Est-ce que toi tu es étonné aussi de ça?
En fait, les Libanais revendiquent le printemps arabe en disant nous on a commencé en 2005, les autres ils nous ont suivis 6 ans plus tard. Il y a aussi ça. Comme je disais tout à l'heure, moi cette question de la majorité silencieuse, j'y croyais plus trop. Je pensais pas que les Libanais seraient capables de ce qu'ils ont fait là ces 3 derniers mois. Parce que pour plein de raisons, parce que la priorité c'est de pouvoir payer les écoles des enfants à la fin du mois. Il y a des pressions économiques extrêmement dures sur les familles, donc le fait de se rebeller, moi j'y croyais vraiment pas, donc c'est extrêmement surprenant ce qui se passe aujourd'hui, d'autant que là par exemple au mois de décembre, il y a je sais pas combien d'entreprises, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte parce que la crise économique est extrêmement dure. Il y a de nombreuses familles qui sont sur des demi-salaires, parce que il y a des entreprises qui n'ont pas voulu virer les gens, mais c'est des baisses entre 20 et 50% des salaires. Il y a une crise bancaire aussi très dure à vivre pour les familles, surtout pour les plus, la classe moyenne et les plus pauvres, parce que les gens peuvent retirer entre 100 et 100 ou 200 dollars par semaine de leur compte en banque, qui n'ont pas accès à leur épargne. La pression économique finalement n'a plus fait peur aux gens. Ils continuent depuis décembre, ils ont relancé ça en janvier avec leur semaine de la colère, là quand j'y étais aux alentours du 15, entre le 15 et le 20. Ils n'ont plus rien à perdre en fait. Ils sont lancés dans leur révolution qu'ils appellent la Faola, qui est donc la traduction du mot révolution. Moi je me méfie toujours de ce mot-là parce que on saura seulement à la fin si ça a fonctionné ou pas, si c'est une révolution. Une révolution, enfin je ne suis pas spécialement... sanguinaire au point de vouloir couper des têtes, mais tant que le régime est là, tant que le système n'a pas été mis par terre, on ne pourra pas appeler ça une révolution. Et le problème, c'est que beaucoup de gens là-bas, moi je l'ai vu en janvier dernier, quand j'ai des copains photographes qui ont été arrêtés, tabassés, des caméramans aussi, beaucoup de matériel cassé. Le pouvoir en place, il bouge encore. Hein. Les gens qui tiennent les rênes du pouvoir n'ont aucun intérêt à lâcher le morceau. Il y a trop d'argent en jeu. Donc voilà, est-ce que il y aura des têtes qui vont tomber? Je ne sais pas. Est-ce que les Libanais, dans leur ensemble, remettront en cause les chefs qui les gouvernent depuis si longtemps, que ce soit le Hezbollah, que ce soit d'autres partis? On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent.
D'ailleurs, toutes ces questions qui sont un peu en suspens, ça explique sans doute aussi un petit peu le changement d'ambiance dans les rues, comme tu l'expliquais au fil des mois. Mmh. Mais en même temps, effectivement, on voit que la mobilisation se poursuit quand même. Donc, restons effectivement aux aguets pour essayer de suivre ça. On continuera en tout cas de le faire sur 1538 Méditerranée et on te remercie beaucoup d'avoir partagé ce témoignage avec nous aujourd'hui.
Merci à vous tous.
Cette émission, alors, elle touche à sa fin. Après l'Algérie en janvier, le Liban en février, 1538 donc reste connecté au mouvement en cours en Méditerranée. On vous donne rendez-vous sur le site www.1538mediterranee.com pour vous tenir au courant ou sur les réseaux sociaux. Et puis, il est encore possible de se procurer la revue Une année en Méditerranée en ligne ou en librairie pour nous soutenir. À bientôt sur Radio Grenouille ou en ligne. On se quitte sur une autre chanson de la Révolution, celle de Dahlia on the Run, intitulée tout simplement Révolution. Yellow clouds coming through, memories of dust and powder. Hear the thunder, hear the rain, washing the pieces of shell away. Power cuts, the city's in blackout. I can see your eyes on the disappearing, but in your heart, wanna sink in. Soldiers are gone, war is done. Can you hear the silence of their wounds? Strange girl in a strange city. Should I be? Where would I go? Where should I be? Where would I go? Where should I be?
Santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Rendez-vous sur 1538méditerranée.com. 1538,